Nous sommes tant reconnaissants pour ce que Dieu a déjà fait et nous sommes convaincus que la chose la plus grande et puissante vient encore. Et comme hier, nous l'avons considéré, ce ne sera pas par force et puissance ou honneur, mais par l'Esprit de Dieu, dit le Seigneur. Aussi vrai que nous avons reçu toute la parole de Dieu révélée et que nous la croyons et que nous nous laissons apporter en accord, nous nous laissons accorder avec cette parole pour que Dieu ainsi ait la possibilité de la confirmer librement, sans obstacle. Alors, c'est à ce moment-là que nous aussi, nous pourrons voir la gloire de Dieu. Je pense à cette vision que le frère Branham avait alors qu'il était encore sur cette terre. Il a été, n'est-ce pas, pris au paradis et il vit une grande troupe, très grande. Et il a été dit que ce sont des millions. Et il a demandé, mais qui sont ces gens? Et vous savez, aussi dans Jean, celui de Patmos, dans l'Apocalypse, a aussi demandé au chapitre 7 qui est cette troupe. Mais dans ce cas ici, il lui a été dit à frère Branham, ce sont ceux qui sont devenus croyants par ton service. Et dans ces dernières semaines, réellement, nous avons constaté plus que jamais auparavant, nous l'avons déjà dit et écrit aussi, toujours de nouveau, mais nous avons remarqué que frère Branham, vraiment, avait seulement reçu le mandat d'emmagasiner la nourriture. Pas une unique fois, pas une seule fois, il lui a été ordonné de aussi distribuer cette nourriture. Vous pouvez depuis le temps, à peu près le 1er avril 1962, avec seulement quelques heures de décalage horaire d'ici à là-bas, donc de l'Amérique. En Allemagne, si on notait ces 8 heures de décalage, alors cela tombe dans le même temps. Alors que le Seigneur lui avait dit pour la première fois qu'il doit emmagasiner la nourriture. Et alors cela est passé par la prédication aussi. Est-ce ceci le temps du 30 décembre 1962? Et aussi dans d'autres prédications, il a aussi fait mention de cela, que le Seigneur lui avait ordonné d'emmagasiner la nourriture. Et il disait toujours de nouveau, le temps arrive où cette nourriture emmagasinée sera nécessaire. Et on en aura besoin. Vous savez que le prophète parle déjà dans le Testament que Dieu enverra dans le pays une famine, pas une famine après l'eau et le pain, mais une famine d'écouter la parole du Seigneur. Et pas une parole que des théologiens, n'est-ce pas, ont interprété dans leur bouche différemment, mais la parole fraîche qui est sortie du trône de Dieu. La vraie parole qui est notre nourriture spirituelle. Nous l'avons aussi mentionné hier déjà, que le Seigneur a fait en sorte, n'est-ce pas, il a donné un temps dans lequel toutes ces prédications de frère Branham ont été tenues par frère Branham. Il a donné un temps où frère Branham a tenu ses prédications. Il a donné aussi un temps dans lequel ses prédications dans les différentes langues ont été traduites. Et maintenant, elles se tiennent à disposition du peuple de Dieu. C'était un petit temps d'appel à sortir, un temps court de préparation. Et nous sommes vraiment convaincus que Dieu encore en a beaucoup. Et quand nous disons encore beaucoup, alors cela est en comparaison à toute la population, seulement à tous les habitants de la terre, ce n'est que une goutte sur une pierre chaude. Mais nous croyons que la mort sur la croix du Christ a servi à quelque chose et que ce n'est pas que Dieu n'est rien et que c'est l'ennemi qui prend tout, mais Dieu manifeste sa puissance et à la fin, elle sera manifestée et encore avec plus de puissance. Beaucoup sont heureux quand très peu sont sauvés. Moi, je suis disposé différemment. Je suis heureux et je me réjouis. Plus il y en a qui sont sauvés et plus c'est mieux pour moi. Et ça devrait être ainsi en nous tous. Nous devons le recevoir ainsi. Quand nous parlons et que quelqu'un dit « Ah, sûrement qu'il n'y en aura pas beaucoup qui croiront. » Alors cela peut être même du doute, de l'incrédulité. Même si Dieu ne le faisait pas, nous ferons mieux de croire qu'il le fait. Car le temps est là où l'amour du Sauveur doit être en nous et en nous et que nous ne nous attendons pas seulement, nous ne nous réjouissons pas seulement d'être sauvés nous-mêmes, mais nous nous réjouirons de voir que beaucoup soient sauvés. Je me réjouirais sincèrement. Mieux, il y en a beaucoup et plus et mieux. Plus il y en a beaucoup et mieux c'est. On prêche mieux quand il y a une foule. Plus il y a de la foule et mieux c'est pour prêcher. C'est comme ça. Ceux qui se sont déjà tenus devant savent que c'est comme ça et peuvent le témoigner. Plus les hommes sont nombreux et mieux la prédication est. Et j'espère que nous pourrons prêcher d'une manière que beaucoup viendront. Vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est ainsi que nous parlons aussi à une seule personne comme Philippe. A pris, n'est-ce pas, d'un réveil en Samarie et est allé l'a envoyé à un seul homme et unique qui était en train de lire le prophète Ésaïe. Comment Dieu conduit les choses, c'est comme ça que je veux le suivre, chante un cantique. Que ce soit un seul ou bien une maison, une région de réunion dans une maison, ou bien alors des milliers qu'ils ont réunis, Dieu conduit toutes choses. Le frère Schmitt nous a lu une parole merveilleuse. Cet après-midi, je ne vais pas parler. Vous comprenez, vous remarquez que ma voix a souffert et aussi ma force a aussi diminué. Je vais maintenant, en fait, pendant quelques semaines, un peu être absent. Mais alors, nous avons promis à nos frères et sœurs de la Belgique, le troisième dimanche en novembre, nous serons donc le matin à 10h à Liège et l'après-midi à 15h. Nous serons à Bruxelles. Dieu là-bas a ouvert des portes merveilleuses et la situation qui n'était pas bien, maintenant, elle change et tant que nous pouvons l'observer, elle se change en bien. Dieu aura la victoire pour finir. Et tous ceux qui nuisent vont devoir avoir honte et être confus. Dieu ne permettra pas que plus soit nuit que ce qui est nécessaire. Non, vous savez, il a toujours fait. Au temps convenable, il interviendra. Nous nous réjouissons déjà maintenant. Nous aimons nos frères. Et le frère Joseph et le frère Gilson, notre frère Roger et tous ses frères. Et nous aimons nos bien-aimés frères de Lyon très particulièrement. Et aussi, vous tous, nous vous aimons de tout notre cœur. Si nous pouvions exprimer cela comme ça, comme nous le ressentons dans notre cœur, concernant ce que Dieu a fait et aussi concernant chacun, n'est-ce pas, il y a de la joie dans notre cœur. Nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur, n'est-ce pas, nous a appelé à sortir. Et préparez-vous à cela. Celui qui veut marcher le chemin étroit avec le Seigneur, il aura à marcher sur un chemin épineux qui est raide et qui monte et qui est pierreux. Et ce sera un chemin de mépris, d'incompréhension, de rejet. Ce sera le chemin le plus désagréable qui existe sur Terre, mais vu très récemment. Qui existe sur Terre, vu très récemment. Mais quelle voie les hommes de Dieu, bien nos frères, ont entrepris avant nous? Quel chemin ont suivi les prophètes? Et ça aussi, j'ai eu à le dire déjà ici. Qui des prophètes a fait du mal à un homme, même pas enlevé un cheveu, et malgré tout, il est dit du sang d'Abel jusqu'à le sang de Zacharie. Hein, le sang des prophètes ont été versé, pas parce que c'était des criminels. Ils ont été haïs et persécutés et tués. Pourquoi? Seulement parce qu'ils étaient porteurs de la parole de Dieu. Et c'est peut-être raison que le diable les a haïs depuis le jour de Caïn, n'est-ce pas? Il a déjà versé le sang. Alors, est-ce que les choses doivent passer, doivent être différentes pour nous? Non. Ne vous attendez pas sur terre à avoir une grande réception, à être bien reçu, à être souhaité la bienvenue. Ne vous attendez pas à ce que les hommes parlent bien de nous. C'est ce qu'ils ont fait de tous les faux prophètes. Si nous sommes des vrais enfants de Dieu, alors nous devons, n'est-ce pas, être sur les traces des vrais prophètes et des vrais hommes de Dieu. Et toute l'Église, et de toute l'Église, pas seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, vous pouvez le lire. Il y a eu une persécution sur Jérusalem, sur l'Église, et tous se sont éparpillés. Et jusqu'à en dehors, dont les apôtres seulement sont restés à Jérusalem. Et partout, il y avait des problèmes. Partout, il y avait des incompréhensions. Vous pouvez lire dans les Actes des apôtres. L'ennemi remue et brouille tout, n'est-ce pas, de tous les côtés. Mais par la grâce de Dieu, cela sera manifesté. Est-ce que nous sommes du grain de blé ou bien alors de la paille? Parfois, quand les tempêtes frappent durement et que tout se remue autour de nous, je vous dis exactement ce que le vent emporte. Il n'a jamais emporté du grain de blé, jamais, pas une seule fois. Je viens de l'agriculture, je sais comment cela se passe. Là, on sèche et on tamise et on trie, mais ce qui est emporté, ça veut dire que ce n'est pas bien à garder, c'est-à-dire la paille. Et le grain de blé va en bas et se rassemble, se joint donc. Le grain, lui, il se rassemble, les grains se rassemblent et donnent une bonne apparence. Donc, tout ce qui peut nous arriver nous fera que nous affermir, nous fonder et nous unir les uns les autres. Car Jésus est le premier grain de blé qui est tombé au sol et qui est mort et qui est ressuscité et qui a porté beaucoup de fruits. Alors que le frère Schmitt lisait ici ces versets, dans 1 Corinthiens 1, verset 26, qu'il n'y a pas beaucoup de nobles parmi nous. J'ai pensé à l'emploi spirituel de ce verset. Nous sommes en fait les gens les plus nobles qui existent sur cette terre, spirituellement. Tous les autres se sont fait anoblir. Mais nous sommes nés nobles. Nous sommes nés anoblis. Nous sommes d'une race, d'une descendance divine, nous sommes vraiment une race divine, nous sommes la plus grande noblesse qui existe sur terre. Nous sommes un peuple de princes, de rois et de sacrificateurs de notre Dieu. Nous sommes la plus grande noblesse, nous sommes des nobles. Loué soit notre Dieu, nous sommes nés nobles. Ça c'est quelque chose de merveilleux, ici il est écrit. Comme il est écrit ici, pas beaucoup de personnes influentes, pas beaucoup de personnes nobles. Mais des hommes qui ont expérimenté l'influence de Dieu sur leur vie. À quoi sert une influence humaine, terrestre? L'Église du Dieu vivant est sous l'influence de Dieu. Pas selon la chair, beaucoup de personnes nobles, ça c'est vrai. Mais personne peut être né plus noble que quand on est né de Dieu lui-même. Et la Bible dit que ce qui est né de Dieu a vaincu le monde. Et c'est la foi est la victoire qui a triomphé du monde. Et là, nous sommes déjà au centre de notre prédication. La foi en Jésus-Christ, la foi en la parole promise, la foi que maintenant nous sommes une partie de l'histoire du salut et que nous sommes en train d'expérimenter une partie de l'histoire du salut. Oui, l'achèvement, le couronnement de toute l'œuvre de Dieu. Parfois, cela nous ferait du bien si nous savions combien de temps nous avons encore. Mais ça ne serait pas bien. Ça ne nous ferait pas de bien. Ce qui serait mieux, c'est nous sommes mieux conseillés quand nous attendons chaque jour vraiment au retour du Seigneur. Mais rester sobre jusqu'à ce qu'il revienne. Mais être prêt, déjà dès maintenant. Car personne ne sait quand il reviendra. Quand est-ce qu'il reviendra? Et je l'ai dit ici un mercredi, j'ai même demandé que des frères et sœurs lisent les prédications des années 65 pour constater dans ces prédications combien de fois frère Branham, encore dans les dernières années, a parlé du retour du Seigneur dans les années 65. Parce qu'il y avait cet enseignement-là qui disait déjà à l'époque que le Seigneur soit déjà revenu. dans la lettre circulaire aussi, je l'ai un peu mentionné brièvement. Mais la sœur Fock a trouvé 40 citations. Et ma sœur Hertha aussi plus de 40 citations de frère Branham. Et d'autres cherchent encore où il parle du retour. Et la sœur analyse, toi aussi, tu en as encore plus, beaucoup plus que 40. Hein, ouais. Donc, il y en a qui ont bien lu et qui connaissent ces prédications. Si quelqu'un viendrait pour prêcherait des choses qui ne sont pas vraies. Moi, je crois que même les sœurs diront ici, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Hein? Même nos sœurs seront. Alors, la première fois, vous aurez le droit, n'est-ce pas, de dire quelque chose. Hein? Pas comme ça. Hein? Même les sœurs. Sinon, vous devriez, sinon, vous taire. Comme ça, vous taire dans l'église. Mais ça vous fait aussi du bien, n'est-ce pas? Pardon? Oui? Oui. Mais si cela n'est pas vrai, alors on peut tous ouvrir la bouche. Mieux c'est, mieux on le fait, mieux c'est. Et là, nous avons, si vraiment quelque chose n'est pas selon les Écritures, nous avons la grâce d'être accordés avec le Seigneur, avec sa parole et aussi les uns avec les autres. Comment est-ce que deux peuvent marcher ensemble si ce n'est qu'ils sont accordés? C'est ainsi que nous le lisons dans le prophète Amos. Donc, comment est-ce que nous pouvons marcher ensemble si ce n'est que nous avons un but commun et ça, nous ne voulons pas l'atteindre par des détours? Plus droit est le chemin, mieux ce sera pour atteindre le but. Oui, c'est comme ça que c'était déjà du temps de Jean-Baptiste. Tout ce qui n'était pas aplani devait le devenir. Tout ce qui était tordu devait être redressé. Et c'était alors ensuite le chemin de notre Seigneur pour que la gloire du Seigneur puisse se manifester. La même chose, nous le croyons, est aussi, s'est accompli aussi, s'est passé aussi dans notre temps. Nous attendons le retour du Seigneur. Nous avons trouvé un verset. Là, frère Branham même salue beaucoup, beaucoup, beaucoup de différents groupes à Phoenix, à New York, dans tout le pays. Et leur dit, vous tous qui attendez le retour du Seigneur, et vous à Phoenix, vous qui attendez tous le retour du Seigneur. Et complètement à la fin, il vient, il mentionne Jeffersonville et dit, nous ici, dans l'église natale, nous sommes rassemblés, nous qui attendons le retour du Seigneur. Et ça, c'était en 65. Et ça, nous le croyons que quand le Seigneur reviendra, alors ce ne sera pas un enseignement, ce ne sera pas une connaissance, son retour. Non, ce sera un matin glorieux. Un jour glorieux apparaîtra. Et ce sera ce jour qui sera couronné comme le jour de la grâce, comme le jour du Seigneur. Il reviendra. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous qui sommes restés vivants, nous serons changés et ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs, dans les nuées, sur les nuées, dans les airs. Et nous serons auprès du Seigneur pour toujours. Et ça, bibliquement, nous avons prouvé cela et montré en raison de ce que frère Branham disait concernant ce grand événement de la nuée le 28 février 1963, duquel il est prétendu que c'était le retour du Seigneur en 63. Non, celui qui a du temps, je peux lui montrer le magazine, le live, avec quatre photos l'une après l'autre prises, et là il est décrit que la nuée était encore visible au ciel 28 minutes après le coucher du soleil local. Elle brillait encore au ciel et elle est allée vers l'ouest, et d'autres photos ont été aussi prises. Donc ce n'était pas le retour du Seigneur comme fils de l'homme. Comme fils de l'homme, il viendra comme l'éclair part de l'est et se montre jusqu'à l'ouest. Je n'ai jamais vu un éclair qui reste là des minutes comme ça, visible comme ça, pendant plusieurs minutes. Non. Comme c'est écrit, c'est comme ça que le Seigneur reviendra. Et quand cela aura lieu, alors moi je ne serai plus ici sur terre. Tant que vous me voyez ici encore, ça veut dire que le Seigneur n'est pas encore revenu. Aussi concernant cette citation, cette déclaration, il y a un frère qui s'est offensé et qui a dit, mais qu'est-ce qu'il se prend pour qui tant qu'il est ici? Il veut dire que le Seigneur n'est pas encore revenu. Il se prend pour qui? Mais écoutez, écoutez, ou alors nous croyons que nous serons enlevés et que nous prendrons par l'enlèvement lors du retour. Alors, tant que nous sommes ici, ça veut dire qu'il n'est pas encore revenu. Parce que sans nous, il n'y aura pas d'enlèvement. Oui ou non? Mais que disait ce frère Branham là? Même s'il n'y en a qu'un seul, moi je crois que c'est moi qui serai cette personne. Pourquoi est-ce que moi je ne devrais pas aussi croire comme ça? Et toi aussi, tu dois croire pour toi, dans la ville où tu habites, pouvoir croire pour toi comme ça. Mais aucun homme qui est né de Dieu s'offense concernant une telle situation. Nous savons que la Bible et les Saintes Écritures disent très clairement que l'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux dans un lit, deux au moulin, deux au champ. Aujourd'hui, ils sont tous ici. Hein? Aujourd'hui, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Jusqu'à aujourd'hui, aucun n'a été pris. Donc, cela ne s'est pas encore accompli. On n'a en fait même pas besoin de dire beaucoup de paroles dessus. Dieu est un Dieu d'action et de pratique et de réalité, pas de théorie et d'enseignement. Il est un Dieu qui a envoyé sa parole pour nous dire comment et qu'est-ce qui se passera. Et alors, il veille sur sa parole, sur ses paroles, pour les accomplir quand le temps sera accompli pour cela. Bon, comme déjà dit, je prêche beaucoup et je voyage beaucoup. Et il y a des frères ici qui sûrement voudraient aussi dire quelque chose rapidement. Frère Rousse, je crois que moi aussi, je n'ai rien à dire. Tout a été dit, ce qui devait être dit. Je dois dire que je ne sais pas combien d'années c'est. Je n'ai pas compté les années, mais je peux dire que ces années sont passées comme le jour de hier. Et si nous pouvons regarder en arrière, nous avons qu'à remercier Dieu pour sa grâce et pour son soutien qu'il nous a accordé. Parfois, nous ne l'avons même pas mérité. Et malgré tout, sa main d'amour nous a porté jusqu'à cette heure et jusqu'à ce moment. Et nous sommes pour cela très reconnaissants à Dieu pour le message de la fin des temps. Et nous voulons demeurer dans ce message jusqu'à que vraiment nous passions de la foi à la vue. Nous sommes reconnaissants de ce que Dieu est encore à l'œuvre et qu'il appelle encore des hommes. Et des hommes qui acceptent sa parole, ils veulent aussi la mettre en pratique. Et c'est ainsi que nous pouvons aujourd'hui baptiser 12 personnes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Une âme est plus précieuse que le monde entier. Pour nous qui vraiment croyons la parole de Dieu, nous sommes intéressés aussi à faire la volonté de Dieu. Pas seulement de la savoir, mais aussi de la faire. Il y en a beaucoup qui connaissent la volonté de Dieu, mais ils ne veulent pas la faire. Mais à quoi est-ce que ça sert de savoir ce que Dieu veut si on ne le fait pas? Et cela m'a touché beaucoup le cœur, alors qu'aujourd'hui, ici, le frère Franck lisait de Actes des Apôtres. Le verset 40, oui. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 40, il leur adressa aussi des paroles pressantes en bien d'autres termes, les exhortant, sauvez-vous de cette génération perverse. Puis ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Cela m'a touché le cœur. Pas tous les autres, ils étaient tous religieux. Ils avaient tous la loi. Et malgré tout, l'Écriture dit ici que c'était une génération perverse et qu'ils doivent se laisser sauver de cette génération perverse. Pourtant, ils étaient tous religieux. Et nous voyons que ce ne sont pas tous qui ont mis en pratique le message qui leur a été adressé. Seulement ceux qui acceptèrent cette parole, ceux pour qui cette parole de Dieu a été révélée, alors qu'ils pouvaient l'écouter. La même chose, nous pouvons aussi le dire. Seulement, celui-là voudra faire et mettre en pratique la parole de Dieu pour qui la parole de Dieu est devenue une révélation. si la lumière de la parole, la compréhension pour les Écritures est souvient dans le cœur, alors il sera prêt à accepter le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le baptême d'eau, un enfant ne sait rien encore. Hein? Il est aspergé, il ne connaît rien du christianisme. La Bible nous dit, d'abord la foi doit suivre. D'abord la foi et ensuite le baptême. Oui, la foi en quoi? On doit croire. Et je pensais, comme c'est merveilleux, comme cela est merveilleux ici. Il est écrit, puis ceux qui acceptèrent sa parole, ceux qui l'ont accepté, c'est parce qu'ils l'ont aussi cru. Donc accepter la parole, c'est aussi croire la parole. Croire ce qui est dit de la parole de Dieu. Que nous vivons dans une génération perverse. Et il y en a qui ont prétendu. Oui, peut-être que ils étaient toute la nation, ils ont prétendu croire. Mais quand Dieu s'était manifesté, quand Dieu s'était révélé, ici sur la terre, ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté le message. Ils ont rejeté la grâce de Dieu. Ils ont rejeté le Seigneur de gloire. Ils l'ont méprisé. Oui, ils l'ont crucifié. Oui. Mais nous voyons que c'était des hommes dans ces jours qui croyaient de tout leur cœur. Et c'est ainsi que nous voyons aussi alors que Pierre ouvrait sa bouche et apportait ce message. 3000 âmes ont ouvert leur cœur, qui avaient ouvert leur cœur et qui avaient accepté le message que Dieu avait à donner. Pas un Pierre, il était un pauvre pécheur comme nous tous. Mais le Seigneur a fait grâce. Par son esprit et par sa puissance, il a agi et il a travaillé dans le cœur de ceux qui écoutaient la parole et qui l'acceptaient pour qu'ils puissent l'accepter, accepter la parole de Dieu. Et la Bible dit dans Romains 10, verset 11, à partir du verset 11, ici la Bible, l'Écriture le dit, car l'Écriture dit, l'homme qui met sa confiance en lui ne sera pas confus. Oui, et ça c'est quelque chose de glorieux. Nous mettons notre confiance dans aucun autre, dans aucune dénomination, dans aucune religion, mais nous mettons dans aucune congrégation, nous mettons notre confiance seulement dans le Seigneur et sa précieuse parole. Et ça, c'est notre confiance. C'est à ce que nous faisons confiance. Nous ne bâtissons pas sur des commandements d'hommes, des credos, des doctrines, des enseignements humains, des commandements d'hommes, mais seulement sur la parole de Dieu. Nous nous concentrons sur la parole de notre Dieu, bien mes frères et sœurs. Et cela, seulement cela nous aide, cela pourra nous aider, seulement cela pourra nous sauver. Tous ceux qui acceptent la parole. L'homme qui met sa confiance en lui ne sera pas confus. Comme il est dit ici, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. C'est ça qu'il s'agit. Verset 12. Si nous avons écouté le message, alors on ne peut que dire au Seigneur, loué sois-tu, remercié sois-tu de ce que je peux venir, de ce que je peux invoquer ton nom, et que tu as pensé à moi, et que je peux t'apporter la louange, l'adoration et la reconnaissance. Mes bien-aimés, une fois, ce jour et cette heure est arrivé, j'étais déjà croyant auparavant, mais je n'avais jamais écouté le message. Mais quand j'ai écouté ce message de l'heure, on pense qu'on sait tout et tout va bien. Non, mais la Bible dit que Dieu nous fait passer de clarté en clarté et de vérité en vérité. Et moi aussi, j'ai pu faire ce pas, le pas du baptême d'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quoique j'étais déjà baptisé dans les trois titres, mais nous devions entièrement suivre tout le chemin du Seigneur et dans l'obéissance faire ce que les Écritures nous demandent. Et je crois que beaucoup de nous, chacun de nous, nous avons tous eu la grâce, nous avons eu tous la grâce de faire ce pas du baptême d'eau. Et je veux insister encore là-dessus. D'être obéissant à l'action de Dieu et à la parole de Dieu. Frère Franck disait déjà ce matin, l'obéissance est mieux que le sacrifice. L'incrédulité est comme le péché de la sorcellerie. Mais nous voulons croire et nous voulons être obéissants. Et pour cela, nous sommes heureux de ce que il nous a déterminé à être son peuple, à croire. Vous savez, Quand on regarde dans le monde, il y a beaucoup qui prétendent croire. Mais que croient-ils? Ils croient ce qu'ils veulent croire. Mais nous ne croyons pas ce que nous voulons croire. Mais nous, et nous croyons ce qui vient de la parole de Dieu. Ça, c'est notre foi. Loué et remercié soit son Saint-Nom. Amen. Aujourd'hui, nous allons de tout notre cœur remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait en nous et en des milliers d'autres sur la terre. Alors que j'étais assis, j'ai dû penser à ce qu'un frère, le dernier dimanche à Zurich, me disait, alors qu'en janvier 81, j'avais été livré à l'hôpital, amené à l'hôpital avec la malaria, et que cela a été connu partout et ça a eu une réaction, ça a apporté une réaction. En tous les cas, les frères et sœurs là-bas à Berne, en Suisse, à Berne, ont tout de suite préparé une réunion de prière. Et pendant la prière, ils disaient que Dieu a montré un cercueil. Et j'ai été montré et que ce cercueil était pour moi. Le couvercle se levait et je devais être mis dans le cercueil. Et subitement, il a vu comme une main est descendue, comme si elle voulait dire « pas encore ». Et la main a fermé le cercueil et la voix était « il doit vivre ». Il vivra. Ce frère me l'a dit dernièrement à Zurich, le dimanche dernier à Zurich. Vous savez, j'étais heureux. Vous savez, quand on est en train de mourir et qu'on est déjà mis dans la pièce et à s'attendre à mourir, avec un rideau à droite, tu as un rideau à gauche, et alors les choses sont différentes, n'est-ce pas? Mais alors, il n'y a qu'une seule pensée que j'ai eue, pas ce que j'ai fait pour toi ou bien pas fait pour toi, mais ma question a été, Seigneur, comment je me tiens devant toi? Dans quelles conditions je suis devant toi? Et je crois que ça, c'est la chose la plus importante. Pas comment est-ce que je me tiens devant les hommes, comment est-ce que Dieu me voit? Comment je me tiens devant lui? Qu'est-ce que je lui signifie? Et nous pourrions continuer. Qu'est-ce que sa parole signifie pour toi et pour moi, etc. Nous sommes reconnaissants au Seigneur notre Dieu pour tous les chemins, même s'ils étaient difficiles. Parfois, presque insupportables. Et malgré tout, quand nous pensions que ça ne pouvait plus continuer pour nous, malgré tout, d'une manière nouvelle, ça continue et le Seigneur a accordé de nouvelles forces pour l'annonce de sa parole. Tant que je le sais, ça va faire plus de 120 pays dans lesquels le message a été porté. Nous servons, n'est-ce pas, des hommes dans le monde entier. Tout ce qui est fait ici, c'est tout ce qui n'est pas fait ici est fait dans un autre endroit. Et ainsi que devant Dieu et devant le Seigneur, nous avons pris la responsabilité que tout soit fait de manière correcte. Et nous sommes reconnaissants ensemble d'avoir une telle part à ce que Dieu fait maintenant. Nous avons ici exposé en répétant que Dieu a un plan et qu'il a une parole de la promesse et que quand le temps arrive, il accomplit ce qu'il a promis et a dit. Nous croyons que nous vivons dans les derniers jours. Nous croyons qu'il a envoyé son esclave serviteur, le prophète, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Nous croyons que les mystères de Dieu ont été révélés et que ainsi, dans les Écritures, nous avons été conduits. Comme cela n'a jamais été le cas sur terre, même pas au commencement de l'Église du Nouveau Testament. La plupart des apôtres ont déjà été auprès du Seigneur avant que Jean, n'est-ce pas, ait reçu la révélation sur l'île de Patmos. Comme les dernières choses qui lui ont été dites et révélées, Paul ne les a plus entendu. Pierre n'a plus entendu parler de ça. Jacques peut-être n'a même pas eu l'idée de ces choses. Dieu a des moyens et des chemins pour faire les choses. Et cela m'inonde toujours plus le cœur que le Seigneur, comme autrefois au commencement du Nouveau Testament, a conservé pour la fin les dernières révélations et qu'ensuite il les a révélées à Jean sur l'île de Patmos. C'est ainsi que cela semble être la même chose aujourd'hui. Que Dieu ait gardé jusqu'à la fin la dernière œuvre de salut qui sera la plus grande. Qui sera la plus grande afin de rendre la fin encore plus grande et plus glorieuse que fut le commencement. Avec Dieu, toutes choses, n'est-ce pas, sont possibles. Qui sommes-nous? Nous ne pouvons que remercier de ce que nous vivons dans ce temps. Remercier de ce que il nous a conservé l'entendement clair, sobre, et il nous a gardé dans sa parole. Combien de croyants commencent à tourner si rapidement comme un animal qui tourne? Je m'excuse de cette expression, mais c'est ainsi. Quand on arrive dans leur maison, tout semble étrange et malgré tout, tout va comme sur des roulettes, n'est-ce pas? Et pourtant, maintenant, remercions Dieu de ce que réellement il nous a conservé dans sa parole, dans sa grâce et surtout dans un entendement clair et dans l'ordre de sa parole. Et ça, c'est une grande grâce. Comme Frère Branham disait, le Seigneur, c'est difficile pour lui de trouver un homme. Mais quand il en a trouvé un, alors c'est ensuite difficile pour lui de le conserver et de le garder petit et humble. Parce que la plupart, ça leur monte à la tête. Hein, mais il y a des hommes pour qui la parole touche leur cœur. Parce que le diable, lui, il utilise la tête. Mais Dieu a choisi le cœur. De la bouche, nous confessons ce que nous avons cru dans notre cœur. Nous croyons, comme disait le frère Rousse a souligné, nous ne croyons pas quelque chose de quelconque. Nous croyons le Seigneur. Nous croyons la parole de Dieu. Nous croyons comme l'a dit les Écritures. Maintenant, nous devons seulement nous mettre à la disposition du Seigneur pour que la foi et les œuvres soient toujours plus proches l'un de l'autre et que cela puisse aller main dans la main parce que nous croyons, car si nous croyons, car la foi sans œuvre est morte en elle-même, la foi en elle-même seule, sans que les œuvres suivent, est morte, sans que nous mettions, nous ne pouvons pas prétendre croire la parole sans la mettre en pratique, alors on peut déjà être enterré, la foi est morte. Donc, il faut qu'à la fin, tout cela soit réuni. La vraie foi biblique et les vraies œuvres bibliques, telles que Jésus-Christ lui-même les a faites, doivent de nouveau se répéter, comme hier nous l'avons observé. Je voudrais pour cela encore citer ce verset de Jean 14, que je n'ai plus lu hier. Après que le Seigneur, dans Jean 14, d'une manière si merveilleuse, a donné cette promesse que nous ferons les mêmes œuvres que lui et des plus grandes pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Et c'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Pas que nous soyons confirmés, mais que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est ainsi que c'est écrit ici au chapitre 14, au verset 13. Mais je voulais lire le verset 18 jusqu'au verset 20. Jean chapitre 14, verset 18 jusqu'au verset 20. Je ne vous laisserai pas orphelins. Jean 14, verset 18. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me voyez. Je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui, donc, tel que le Sauveur pouvait dire auparavant au verset 10, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais le Père qui est en moi. C'est lui qui fait ses œuvres. C'est ainsi que nous aussi, en ces jours, tel que c'est écrit ici, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ce jour-là, où nous recevons cette révélation divine et savons que le Père dans le Fils s'est révélé et que le Fils s'est révélé en nous, Dieu en Christ et Christ dans l'Église. Et tel que frère Branham, dans un verset, disait, tout ce que Dieu était, il l'a répandu en Christ. Il a déversé. Et tout ce qui était en Christ a été répandu dans l'Église. Et c'est ainsi que le cercle se ferme et que pour finir, ça arrive à cet accord absolu et total avec Dieu et Christ dans l'Église. Et il reçoit la première place qui lui appartient et reçoit en nous ce qui lui revient de plein droit pour pouvoir faire ses œuvres par nous. Je me rappelle rapidement à ce film de frère Branham où on le voyait comme ça, dépendant de Dieu. Et vous l'avez vu, c'est visible. On pourrait même avoir de la compassion. Mais il était sincère comme seulement un homme peut l'être. Et il a dit, sans l'ange de l'Éternel, je suis sans secours, je ne peux rien faire. Je ne peux absolument rien faire jusqu'à ce qu'il me donne un ordre. Il me dit ce que je dois faire et ce que je dois dire. Et subitement, l'image change et il fait un saut un peu en arrière. Et puis il dit subitement, maintenant il est là, sur la plateforme. Et directement il change et il dit, je prends chaque esprit ici sous mon contrôle. C'est à ce moment-là où le Seigneur manifestait sa présence, à ce moment-là où l'ange éternel se tenait à sa droite. Il y avait quelque chose de surnaturel dans la salle. Alors ce n'était plus la prédication, ce n'était plus l'annonce de la parole, ce n'était pas seulement la foi. Mais là, Dieu, le Seigneur lui-même, l'Éternel, de manière surnaturelle, commençait à agir. Souvent, j'ai regardé. Et même là, alors que frère Branham se tenait devant moi, s'était assis devant moi. Il n'a jamais fermé les yeux quand il voyait une vision. Il voyait les visions avec des yeux ouverts. Il voyait comment est-ce que la lumière, le Seigneur, dans la lumière, et subitement, et comment est-ce que la lumière allait de personne en personne. Et l'ange qui se tenait à côté de lui, n'est-ce pas, lui ensuite dit ce qu'il était en train de voir et il a simplement fait que transmettre ce qu'il a vu et que l'ange lui disait ce que cela veut dire et ce qu'il doit dire. Je n'ai jamais vu frère Branham avec un traducteur à sa droite. Chaque traducteur dans chaque pays se tenait toujours à sa gauche. Ce n'était pas possible autrement. L'ange de l'Éternel se tenait à sa droite sur la plateforme au moment où l'action, le service surnaturel commençait. Et bien sûr, la colonne de feu était aussi pour lui visible. Et la lumière, et je veux dire la lumière. Et dans cette lumière, frère Branham voyait qui Dieu voulait guérir. Et tous les détails sur la personne. Et j'espère aussi que tous ceux qui jusqu'à maintenant n'ont jamais entendu dans les détails de ces choses, j'espère que vous n'avez pas de difficulté à suivre ces choses et nous allons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour vous aider. Car l'action surnaturelle de Dieu, pour vous aider à comprendre l'action surnaturelle de Dieu dans ce temps, et de suivre de tout votre cœur et avoir part de tout votre cœur à ce que Dieu fait maintenant. Nous attendons cela, qu'il achève son œuvre et que nous ayons part à cela. Nous ne savons pas qui est-ce que le Seigneur encore reprendra à la maison. N'est-ce pas? Je me souhaite toujours cela quand il y a des difficultés, particulièrement qui m'arrive, je me souhaite toujours de partir. Et ça serait la chose la plus simple, n'est-ce pas, d'échapper de tout. Mais le Seigneur ne nous rend pas les choses si faciles. Hein? Non, il veut que nous puissions combattre le bon combat de la foi et que nous puissions persévérer jusqu'à la fin. Car celui qui persévère jusqu'à la fin sera couronné. Nous voulons être couronnés. Alors nous ne devons pas comme ça, laisser tomber les armures. Nous devons nous revêtir de toutes les armures de Dieu, de la tête aux pieds, et aller de l'avant. Cela me fait vraiment du bien quand j'entends que quelqu'un me dit, frère Franck, nous prions pour toi. Ça, c'est la chose la plus grande qu'un homme peut dire, peut me dire, nous prions pour toi. Et alors, je suis déjà satisfait, je sais que je suis porté sur comme des aigles, des ailes d'aigle. Et alors, je vous demande à tous de prier pour que la volonté de Dieu soit faite, de prier pour que nous puissions marcher au même pas que la parole que nous avons entendue et que l'écart soit toujours plus petit entre parole et esprit et que nous soyons toujours apportés, toujours plus en accord avec Dieu et sa parole et que Dieu puisse se glorifier parmi nous comme nous l'avons lu ici. En ce jour-là, que cela soit ce jour-là, le verset 20, que le Seigneur a déterminé à cela pour se glorifier lui-même et confirmer sa parole et bénir son peuple. Loué soit son merveilleux nom et glorieux et saint nom. Amen. Levons-nous, venons devant pour apporter au Seigneur la reconnaissance que nous lui devons.